Je suis sociologue urbaniste. J'ai soutenu ma thèse, moi, il y a 4 ans, à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et ça fait 3 ans que je travaille à l'association des responsables de copropriété en tant que salarié en CDI, comme sociologue et chargée de recherche. C'est une position assez rare, un peu étonnante, puisque je suis chercheur et sociologue dans une association qui n'a pas du tout pour objet de faire de la recherche, puisqu'en fait c'est une association qui défend, conseille et représente les copropriétaires. Et c'est une association qui compte 50 salariés, et je suis la seule sociologue, la première, peut-être la dernière, mais... et la seule qui a une fonction de recherche. L'objet de mon intervention, c'est de vous expliquer comment cette rencontre s'est faite, comment ensuite ça se passe dans la pratique. Ah, j'avais une présentation, mais c'est le plan, donc c'est pas grave, je vais faire ça. Comment ça se passe dans la pratique, et puis est-ce que je peux être encore chercheur en travaillant dans une association, et puis comment ça influe sur mon identité aussi professionnelle, est-ce que je suis toujours sociologue en travaillant seule dans une association dont ce n'est pas l'objet. Donc ça va être mes 3 parties. Donc d'abord ma position, comment s'est construite cette position, ensuite ma pratique, est-ce que je peux vraiment être chercheur dans ce contexte, et ensuite mon identité, est-ce que je suis toujours sociologue dans cette association. Donc comment c'est arrivé que j'ai pu être embauchée en tant que sociologue et chercheur dans cette association? D'abord, il y a eu 4 conditions préalables. La première condition, c'est que je connaissais moi personnellement cette association avant même de faire ma thèse, puisqu'en fait j'ai travaillé dans cette association avant la thèse, et c'est même ce travail qui m'a donné envie de faire ma thèse, qui a porté sur le problème des copropriétés en difficulté et la démolition d'un grand ensemble en copropriété à Clichy-Montfermeil, puisque pour cette association j'avais travaillé à Clichy-sous-Bois sur 2 copropriétés en difficulté où j'étais chargée de suivre le conseil syndical de ces copropriétés et les copropriétaires qui étaient en impayé de charge. Et en fait c'est ça. Ok. Voilà. C'est ça qui a construit mon projet de recherche de thèse que j'ai ensuite mené pendant 7 ans. La deuxième condition, c'est aussi que c'est lié à la gouvernance de cette association, qui est particulière, parce qu'en fait, c'est une association qui a été fondée il y a 25 ans par son directeur actuel. Et le directeur, c'est lui qui prend toutes les décisions. Donc, c'est un circuit de décision très simple. Et comme je le connaissais bien, puisque j'avais travaillé avec lui, voilà, il y avait une situation de confiance qui était préalable. Et lui-même est une personne un peu hybride, dans le sens que, même si c'est un spécialiste de la gestion des copropriétés, c'est pas un chercheur, mais il vient quand même des sciences humaines, puisqu'il a été professeur de philosophie, et qu'il a eu un parcours notamment à Normal Sup. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même une sensibilité à la démarche de recherche et une compréhension de la démarche de recherche. Et troisième condition, c'est lié à l'histoire de l'association. C'était aussi une fenêtre d'opportunité à ce moment-là, parce qu'en fait, donc cette association qui est aussi une association de service aux copropriétaires pour les aider à suivre la gestion de leur syndic, notamment à travers des consultations juridiques et comptables, a aussi un rôle de force de proposition au sein de l'action publique qui, juste au moment où moi j'ai fini ma thèse, était... croissant, puisqu'en fait l'association a été nommée en 2009 pour co-animer le chantier copropriété du plan bâtiment Grenelle. Et ça rejoint la quatrième condition préalable, c'est que mon recrutement, il est lié à une commande publique, puisque dans le cadre du chantier copropriété du plan bâtiment Grenelle, ça a donné lieu à la construction d'un programme de recherche-action porté par le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, donc le ministère de l'écologie, sur l'amélioration énergétique des copropriétés. Parce qu'en fait, la copropriété, c'est un quart des logements en France. Et dans ce secteur particulier de l'habitat, la rénovation énergétique se heurte à des difficultés particulières, puisque la décision de rénovation, c'est nécessairement un processus collectif. et qui doit rassembler des copropriétaires aux intérêts et aux stratégies très variées et qui en plus ne sont pas qualifiés professionnellement pour porter et suivre un projet de rénovation énergétique. Donc c'est là qu'il y a besoin de la sociologie. Donc c'est ce qui sous-tendait le programme de recherche action du PUCA et donc auquel l'ARC souhaitait répondre. Et pour cela, donc, ils m'ont appelé, puisque je venais de soutenir ma thèse, que j'avais invité le directeur à ma soutenance de thèse, qui avait beaucoup apprécié ma thèse parce qu'il pensait que j'avais fait une thèse ARC. Alors que je n'ai pas du tout fait ma thèse en lien avec l'ARC, mais il trouvait que ma thèse reprenait tout à fait les messages de l'ARC. Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé, mais donc ça ne s'est pas fait. Enfin, ça a été aussi une position négociée. Puisqu'en fait, quand il m'a appelé, il m'a dit « Voilà, nous, on veut répondre à un programme de recherche. On a besoin d'une caution sociologique. » J'ai pas débattu sur ce terme « caution sociologique ». J'ai fait « Bon, d'accord, vous voulez une caution sociologique. Moi, j'ai soutenu ma thèse et moi, je veux un poste de salarié non précaire. » Et donc, il a dit « Bah, ok, banco. » Et j'ai été direct embauchée en CDI, bien que c'était sur... des programmes de recherche, enfin c'était conditionné à la sélection des programmes qu'on a présentés, des projets qu'on a présentés. Mais ça a encore dû être négocié parce qu'au départ, ils pensaient aussi que j'allais travailler chez moi complètement de manière indépendante. Et c'est moi qui ai demandé à être dans les locaux, à avoir un bureau, parce que je sortais de 2 ans de rédaction de thèse, il me fallait absolument des collègues. Et des horaires, et donc j'avais vraiment envie de vivre la vie d'entreprise. Donc c'est comme ça que je suis devenue donc salariée en CDI en tant que sociologue à l'ARC. Mais c'est aussi une position, donc au début à temps partiel, parce que j'avais quand même négocié un temps partiel pour pouvoir valoriser mon travail de thèse. C'est aussi une position qui s'est consolidée par la pratique. Parce qu'en fait, rapidement, on s'est rendu compte que je répondais à un vrai besoin. Donc j'avais deux projets de recherche donc, sur la rénovation énergétique, enfin de recherche-action. Et puis, en fait, il y a très peu de sociologues qui travaillent sur la copropriété. Et moi, j'avais déjà une certaine reconnaissance dans le milieu académique et professionnel. Donc j'ai été sollicitée à la fois par mon propre réseau qui avait une demande de production de connaissances sur les copropriétés et du coup je raccrochais l'ARC à cette demande, soit c'est l'ARC qui était sollicité dans le cadre de projets de recherche parce qu'il y a 12 000 copropriétés adhérentes, donc pour les chercheurs c'est un accès formidable au terrain, donc ils sollicitaient l'ARC et du coup moi j'arrivais en demandant à participer à la conception aussi du projet de recherche pour qu'il corresponde aussi aux attentes de l'ARC et que ce ne soit pas simplement fournisseur de terrain. Donc sous l'effet de ces deux types de demandes, en fait, mon activité s'est rapidement développée. Et finalement, au bout d'un an, j'étais à temps plein. J'ai réalisé 2 études pour la Fondation de France et la Fondation Abbé Pierre sur les copropriétés en difficulté. J'ai mené une évaluation d'opération à Clichy-sous-Bois qui était mon terrain de thèse et puis j'ai été aussi amenée à contribuer au pilotage d'une étude sur le tri sélectif dans les copropriétés avec éco-emballage, tout ça sans tenir compte des demandes internes de l'ARC qui me posaient aussi des questions. Et donc au bout de 2 ans, j'ai même été nommée responsable d'un pôle recherche-expérimentation, donc qui comprenait que moi-même. Mais quand même, il y avait 10 de pôles qui venaient d'être définis dans le cadre du prochain départ à la retraite du directeur. Et voilà, j'avais créé quand même, du fait de ma position, un pôle recherche-expérimentation. Et avec quand même l'idée que c'était un point de départ et que je pouvais consolider ce pôle. Mais malgré tout, c'était une position fragile, puisque en fait, c'est au moment où j'ai été le plus intégrée que ça a commencé à être remis en cause. Donc avec 2 facteurs. D'abord, la fin des tout premiers projets sur lesquels j'étais engagée et pour lesquels j'avais été recrutée, donc les projets sur la rénovation énergétique. Et puis surtout, le changement de stratégie d'organisation. lié au prochain départ du directeur et à la nomination d'un nouveau directeur adjoint qui va prendre sa succession, qui était salarié de l'ARC, qui était le directeur de la coopérative technique et qui, du coup, lui a plus un profil commercial et qui réoriente l'activité de l'association sur de la production de services aux adhérents et qui n'est pas sensible à la recherche et du coup qui est plus dans des optiques de rentabilité et de production de services. Et du coup, depuis qu'il est devenu directeur adjoint il y a 6 mois, mes conditions de travail, qui étaient vraiment exceptionnelles auparavant, se sont fortement dégradées. Donc mon pôle recherche et expérimentation a été supprimé. Je ne fais plus partie de l'organigramme. Et bien que mon poste reste financièrement équilibré avec les commandes extérieures, et donc ce qui m'a conduit à conclure une rupture conventionnelle, donc à l'heure où je vous parle, c'est mon avant-dernière semaine à l'ARC. En tant que... Voilà, mais donc je garde le suspense pour la fin sur ce que je vais faire ensuite pour passer à ma pratique. Alors, ai-je vraiment un rôle de chercheur dans cette association? Donc oui, parce que pour le coup, il peut y avoir certaines organisations qui aiment bien embaucher un docteur un peu pour se faire mousser. Là, ça les faisait mousser quand même, mais ce n'était pas le but premier. C'était vraiment de produire de la connaissance. Et c'est là où c'est un peu différent du contexte de Delphine, c'est que moi, le premier projet de recherche-action auquel j'ai participé, il avait même été formulé par l'association, donc par le directeur lui-même, et c'est moi qui ai rapporté ma patte de sociologue au niveau de la méthodologie, etc. Mais la question qui se posait, c'était vraiment une question auquel ils avaient envie de répondre. Et la particularité, peut-être aussi, c'est que c'est une association qui représente les usagers. C'est une association de copropriétaires, donc leur but, par rapport à cette demande de compréhension de la réalité, enfin, je pense qu'elle était vraiment sincère, parce que l'idée, c'est de faire porter cette réalité que vivent les usagers qu'ils représentent auprès des commanditaires publics. Donc j'ai jamais eu cette impression de manipulation ou de... Enfin, c'était pas du tout... Leur commande n'était pas comment convaincre les copropriétaires pour qu'ils engagent des travaux. C'était pas de quel registre... Enfin, il y avait un peu les registres argumentatifs, mais c'était vraiment comment comprendre le processus de décision de projet de rénovation dans une copropriété pour l'expliquer à tous les intervenants qui interviennent tous les professionnels et les pouvoirs publics, pour adapter les aides à ces processus, pour adapter les pratiques professionnelles à ces processus et faire en sorte que ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans les conditions préalables, il y avait aussi le travail de thèse de Gaëtan Brispierre qui a utilisé l'ARC, donc avant que je sois recrutée, pour faire un chapitre de son travail de thèse. Et c'est ça aussi, c'est quand Gaëtan a rendu compte de ses résultats à l'association qui leur a donné envie de répondre à ce programme de recherche-action autour d'une notion qu'a inventé Gaëtan, c'est la notion de leader énergétique. Parce qu'en fait, Gaëtan, dans sa thèse, montre que c'est pas tant les solutions techniques ou la stratégie argumentaire qui fait qu'une copropriété passe à l'acte et fait des travaux de rénovation énergétique, même coûteux, c'est au niveau de l'organisation de la copropriété elle-même et de la présence d'un copropriétaire qui va jouer un rôle moteur, un rôle de leader et instaurer un climat de confiance et de processus décisionnel un peu plus participatif qui va faire en sorte qui va instaurer les possibilités d'une décision collective et d'un consensus autour de la rénovation. Et ça, c'était quelque chose... Du coup, c'était vraiment le postulat de départ de mon projet de recherche aussi, porté par l'association. Et donc, c'était un projet de recherche-action qui avait pour but de refaire une enquête auprès des copropriétés qui avaient mené des travaux de rénovation énergétique pour éclairer ce processus, dans le but de faire un guide à destination des copropriétaires et des acteurs qui les accompagnent pour un peu leur communiquer ces bonnes pratiques. Donc voilà, du coup, moi, en tant que chercheur, je produis non seulement de la connaissance, mais donc avec cette phase action qui est donc que je peux... donné lieu, en plus du rapport de recherche du programme, à la publication aux éditions de l'ARC de ce guide « Rénovation en copropriété, comment mobiliser les copropriétaires » que j'ai rédigé. Et, enfin, je vais peut-être en parler plus tard, mais... Voilà, mais alors, et donc, du coup, mon rôle de chercheur était un peu spécifique, puisque orienté vers la production d'outils, mais ce n'était pas le seul usage, enfin, la seule fonction de mon rôle de chercheur au sein de l'association, puisque je contribuais aussi à d'autres activités, directement ou indirectement, et notamment ces activités de lobbying, puisque donc, les forces de proposition aussi au niveau législatif, etc., et en fait, d'avoir un chercheur. Au sein de l'association, ça permettait d'explorer de nouveaux canaux de lobbying à travers l'ensemble des conférences, des interventions dans des conférences que je faisais, parce que du coup on m'invitait parce que j'étais sociologue et que c'était un peu original. On m'invitait pas simplement parce que je représentais l'ARC, et le discours était pas exprimé de la même manière que lorsque c'était les intervenants de l'ARC qui l'exprimaient. Et puis aussi dans la création de nouveaux partenariats, puisque donc moi je travaillais en plus avec des commanditaires extérieurs qui étaient d'autres acteurs qui portent aussi des intérêts, comme par exemple la Fondation Abbé Pierre, où je pouvais justement travailler aussi avec eux à la transformation de leurs commandes. Et du coup c'est aussi un autre canal pour faire passer un message. Ou par exemple... Je prends la SEM Énergie Positive, qui est une société d'économie mixte qui travaille sur la rénovation énergétique des copropriétés. Je n'ai pas eu de contrat avec eux, mais par exemple, ils me demandaient « Ah ben, t'es sociologue, tu vas pouvoir nous dire c'est quoi les arguments pour les propriétaires bailleurs ?» Et donc moi, je pouvais leur expliquer « Non, ce n'est pas une question d'arguments, mais c'est vraiment une question de processus et de méthodologie de projet qui fait que ça conduit à la rénovation énergétique. » Alors, vous pouvez vous demander, dans ce contexte, sachant que mes résultats sont utilisés pour des outils, sont utilisés dans une perspective de lobbying. J'ai moi-même, d'ailleurs, participé directement à ces activités de lobbying, par exemple en allant à une audition d'un sénateur pour la préparation de la loi Allure. Donc, est-ce que mes résultats de recherche restent scientifiques? Alors, oui. Oui, parce qu'en fait, parce que c'était aussi la réaction de la Fondation Abbé Pierre quand je leur ai annoncé que je partais. Ils m'ont dit « Ah ben maintenant, tu vas nous dire autre chose. Maintenant que tu n'es plus à l'ARC, en tant que chercheur ou sociologue, tu vas nous dire autre chose que ce que tu nous disais depuis le départ. » Et je dis « Ben non. » Ben non, parce que je suis chercheur avant d'être salarié de l'ARC. D'abord parce que j'ai le sentiment d'avoir une existence professionnelle en dehors de l'ARC, parce que aussi j'ai toujours eu des relations avec la communauté des chercheurs, soit à travers des colloques scientifiques ou des activités de publication, ou la participation à des séminaires, le séminaire de mon école doctorale, un séminaire Habitat de mon laboratoire, ou les activités du Réal m'ont toujours permis d'être en contact avec le monde de la recherche. En plus, j'étais déjà auteur. J'avais déjà publié avant d'être à l'ARC, donc ça aussi, ça conditionne les publications que je peux faire en tant qu'ARC, où en fait, l'évaluation par mes pairs scientifiques sont toujours beaucoup plus importantes que les injonctions de mon directeur. C'est vraiment... Et c'est justement parce que actuellement je ne peux plus concilier mon travail à l'ARC avec ma déontologie de chercheur que j'ai décidé de partir. Puisque en fait, donc depuis 6 mois, j'ai plus du tout les mêmes conditions de travail, et que maintenant on m'a demandé des objectifs de productivité qui sont complètement inconciliables avec la production de résultats de recherche. Puisque par exemple le guide, là, j'ai eu que 2 mois pour le rédiger, sachant qu'en plus moi je fais de l'écriture scientifique, et ça c'est pas de l'écriture scientifique, donc c'était aussi pour moi un nouvel exercice à apprendre. Ensuite, le rapport de recherche lié à cette recherche, qui est un autre livrable, on m'a demandé de le faire en 2 jours, donc pour moi c'était pas possible, donc j'ai quand même réussi à le faire en 2 semaines, et 2 semaines plus tard on m'a demandé de rédiger 8 projets de recherche sur des thèmes différents. Donc c'est là que j'ai demandé une rupture conventionnelle. Donc, je passe au troisième point. Donc, suis-je toujours sociologue ? Alors, oui. Et en fait, même, je me sens beaucoup plus sociologue qu'avant de travailler à l'ARC. Parce qu'en plus, moi, je n'avais pas une formation initiale de sociologue. J'ai une formation très pluridisciplinaire, Hippocagne, aménagement et développement du territoire. Et un doctorat en urbanisme, qui est donc pas... Enfin, je suis quand même qualifiée en sociologie. J'ai quand même eu ma qualification de la section 19. Mais c'était pas mon identité première. Mais c'est vraiment, alors que j'étais vraiment embauchée en tant que sociologue et tout le monde s'adressait à moi en tant que sociologue. Donc c'est vraiment là que je suis devenue, enfin pour moi, sociologue. Et même maintenant, j'ai du mal à rajouter sociologue urbaniste derrière, parce que je trouve que je suis plus du tout d'urbaniste, mais, enfin, même si je travaille sur l'habitat. Et c'est surtout à l'ARC que j'ai découvert ce qu'étaient mes compétences de sociologue. En fait, au contact de non-sociologues. Donc, ces compétences, quelles sont-elles ? Bah, déjà, la résolution d'un problème scientifique, poser un problème, ses enjeux, définir une problématique, une méthode. Ça, je l'ai vu en répondant à des appels d'offres, parce que donc actuellement, sur le bâtiment, comme on le disait, il y a vraiment une demande de cette fameuse caution sociologique. Donc, c'est pas forcément des sociologues qui répondent aux appels d'offres. Je me souviens d'un appel d'offres de l'ADEME l'année dernière, au mois de janvier, qui avait beaucoup communiqué sur le fait que s'il n'y avait pas de sciences sociales, les projets ne seraient pas retenus. Donc là, Gaëtan comme moi, on a été submergés de demandes en nous disant « Ah, on a prévu notre projet, nous déjà, ingénieurs thermiciens, on a prévu notre projet, il nous faut des sociologues maintenant. » Et en fait, moi on me disait « Bah vas-y, c'est bien pour nos partenariats. » Et puis j'arrivais, je disais « Mais bon, si vous voulez un sociologue, il faut que j'intervienne dans la constitution du projet. » Parce que moi, en tant que sociologue, je ne peux pas cautionner... juste de faire un audit énergétique et de mettre des capteurs, enfin, ça va pas. Donc, mais en fait, c'était vraiment intéressant. Enfin, moi, j'ai pas rencontré d'obstacles. Enfin, si, des fois, il y a des obstacles catégoriques, mais j'ai vraiment eu des moments d'échange où les gens, mes interlocuteurs, se rendaient compte des compétences que j'apportais. Moi-même, je m'en rendais compte, je sais. Enfin, mais voilà. Et alors, il y a d'autres compétences aussi, comme faire un questionnaire. Puisque moi, je travaille beaucoup sur les audits énergétiques en copropriété, où il y a un questionnaire obligatoire pour les copropriétaires et locataires qui sont faits par des ingénieurs thermiciens. Donc, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, sociologues, enfin, que font les formations de sociologues pour que les ingénieurs thermiciens sachent pas qu'il y ait des professionnels compétents dans le domaine. C'est-à-dire, faire un questionnaire, c'est une compétence que nous, on sait faire, mais personne ne sait que nous, on sait, enfin, que les sociologues savent faire des questionnaires et que d'autres, que les ingénieurs thermiciens, ne savent pas faire un questionnaire. Mais là aussi, encore, c'était des pratiques d'échange, parce que du coup, j'ai retravaillé les questionnaires avec les thermiciens et bah, ils étaient contents après de voir qu'ils avaient un peu plus de taux de retour. Et moi, du coup, voilà, j'ai aussi, je me suis rendu compte de ce que je savais faire en tant que sociologue, que j'aurais pas su formuler si j'ai été restée dans un milieu purement de sociologue. Après, il y a analyser une dynamique collective. Le problème, c'est que ça marche pour la copropriété, mais ça marche aussi dans l'organisation dans laquelle on travaille. Donc, des fois, c'est sûr qu'on peut faire un petit peu peur. Il y a aussi construire une typologie. Ça, je ne savais pas non plus que je savais faire ça et que d'autres personnes, enfin d'autres professionnels, enfin en l'occurrence, ça, c'était une demande interne à l'ARC qui voyait que donc, les chargées de mission qui interviennent sur des copropriétés en difficulté, donc elles travaillent avec des conseils syndicaux, donc des copropriétaires élus pour surveiller et assister bénévolement leur syndic. Et donc, elle rencontre des difficultés pour travailler avec ces conseils syndicaux. Et du coup, c'était une demande du directeur de faire une typologie des conseils syndicaux avec lesquels elles étaient en relation. Et le directeur, lui, il avait bien conscience de ce que c'était qu'une typologie. Et par contre, pour mes collègues, c'était très compliqué. Et au départ, on a fait une réunion collective où ils demandaient à tout le monde « faites votre typologie ». Et en fait, on se dit, mais comment on fait ça, quoi ? Donc, ils partaient dans tous les sens, ils ne savaient pas quels critères retenir, etc. Et finalement, c'est moi qui ai piloté la réunion et le travail, alors que je n'étais pas au début désignée pour le faire. Et j'ai pu, avec ce qu'ils me donnaient, leur construire une typologie qui correspondait et la tester après en fonction de leur expérience. Après, il y a conduire un entretien aussi. Enfin, voilà, c'est quelque chose que ça, j'ai pu aussi partager avec mes collègues. Et puis, la vision institutionnelle au sens large du monde de la politique du logement, de la connaissance des acteurs de la politique du logement. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse avec la compréhension de leur histoire, de leur intérêt, de leur logique d'action. Et voilà. Donc ça, c'était des compétences qui n'étaient pas bien identifiées au départ, ni même par moi, ni par mes collègues, mais qui ont été finalement reconnues grâce au travail collectif, parce que j'ai énormément travaillé avec mes collègues. Et aujourd'hui, mes collègues qui n'avaient pas forcément conscience de ce que je pouvais apporter dans leur travail à eux, je dis qu'ils vont regretter cet apport, parce que je ne serai pas remplacée. Alors, mais suis-je toujours sociologue pour le monde académique? C'est une autre question, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des conditions de travail un peu particulières, où en plus, on n'a pas... moi, j'ai plus le temps de faire des lectures théoriques, enfin, très peu, donc je fonctionne un peu avec mon bagage de base. Donc des fois, on se dit, est-ce que... Enfin, mais bon, j'ai quand même toujours des partenariats avec cette activité. Par contre, j'ai le sentiment que même si moi je me considère à 100% chercheur et à 100% sociologue, mon statut n'est pas reconnu. Là, j'ai encore reçu un programme des biennales de la sociologie urbaine dans les prix pour participer au colloque. Il y a doctorants, post-doc et chercheurs précaires et enseignants-chercheurs titulaires. Et du coup, je dis, je peux pas être assimilée à chercheurs précaires parce que j'avais des bonnes conditions de travail, un vrai salaire, voilà. Mais je suis chercheur privé ou je sais pas, voilà. Il n'y a pas trop de catégories. Et autre chose, c'est que, en fait, donc moi je suis toujours en lien avec le monde académique. Et en fait, ce champ de la copropriété, c'est vraiment un champ où il y a une forte demande de sociologie et où je n'arrive pas, dans tous les séminaires auxquels je vais, à faire émerger ce champ-là. C'est-à-dire que c'est toujours moi qui parle de la copropriété, je suis étiquetée copropriété, mais même avec les profs avec lesquels je discute, eux, ils sont sur leur sujet de recherche et je ne sais pas comment faire émerger ce champ dans le milieu académique alors qu'il y a une vraie demande et des vraies possibilités de financement. Et voilà, donc en conclusion, c'est... En fait, moi, ça m'a tellement apporté d'être chercheur de cette façon-là que je veux continuer, donc je ne peux pas continuer à l'ARC. Donc là, je vais continuer en tant que sociologue indépendante. J'ai jamais fait les concours de maître de conf par choix. Et donc, je me sens pas du tout une chercheure frustrée, au contraire.
Merci, Sylvie.